Le jour, le dimanche de la fête des pères, est un dimanche un peu particulier pour les pasteurs. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas. C'est un peu particulier et un peu difficile. Pourquoi? Parce que la Bible est remplie, il y a un ensemble de bons exemples de pères dans la Bible dans lesquels nous pouvons nous inspirer. Il y a un peu plus de mauvais exemples, n'est-ce pas? Plein de choses qu'il ne faut pas faire, plein d'exemples où on peut dire « Ah, surtout, à éviter, ne faites pas cela ». Et puis, en plus de cela, donc, un ensemble d'exemples dont on peut s'inspirer. Et puis, tout comme avec la fête des mères, d'essayer de trouver quelque chose et, par la grâce de Dieu, d'apporter quelque chose qui soit valable pour tous. Comme je l'avais dit pour la fête des mères, alors là, j'avais dit, les hommes, ne fermez pas l'oreille, restez attentifs. Et je vais faire la même chose, mais maintenant, dans le sens inverse. Aujourd'hui, les dames, même les jeunes, restons attentifs, puisque même si nous serons axés autour de ce thème de la fête des pères, ceci sera valable pour tous, puisque nous allons prendre l'exemple suprême, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, pendant juste quelques instants ce matin. Matthieu, chapitre 7, de grands exemples, on pourrait en trouver dans la Bible, mais aucun ne serait aussi grand que Dieu lui-même. Matthieu chapitre 7, Jésus va expliquer quelque chose ici qui est tellement réconfortant pour nous, qui nous donne bien sûr un exemple. Et au verset 7, c'est là où nous allons commencer. Matthieu chapitre 7, le verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. » Et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Nous demandons l'éclaircissement du Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre ce que tu as pour nous, que notre cœur soit réceptif, que tu continues cette œuvre bonne, agréable et parfaite que tu as commencé en nous et que tu vas parfaire jusqu'à ton retour. En ton nom, nous prions. Amen. Lorsque nous pensons à Dieu, est-ce que la première pensée qui vient dans notre esprit, c'est Dieu en tant que Père? J'aimerais que ce soit le cas pour moi. J'ai un bon repère dans ce sens, puisque par la grâce de Dieu, il m'a donné un père formidable. Je suis désolé pour tous les autres, mais mon père, c'est vraiment le meilleur. Okay? C'est dommage, enfin pour vous, mais mon père, il est le meilleur. Et je pense que chaque enfant, presque, pourrait dire cela. J'ai eu vraiment, par la grâce de Dieu, un excellent exemple de père terrestre. En même temps, je reconnais la réalité que tout le monde n'a pas eu ce même privilège. Qu'il y a des pères parfois qu'on appelle absents. Il y a des pères, méchants par moments. Il y a des pères qui sont indifférents. Il y a des pères qui ne se comportent pas du tout comme ils devraient. Et à ce moment-là, puisque nous voyons tellement de travers, nous relevons toutes les fautes, nous relevons tout ce qui ne va pas, parfois, nous pourrons tomber dans le piège de penser que Dieu ressemble un peu à notre Père. Et aussi parce que Dieu, il est Dieu. Il est tellement grand, on ne le voit pas. On peut avoir tendance à penser, Dieu, il est là-haut dans les cieux. Dieu, il est tellement grand, il est aussi tellement sévère que je ne peux pas peut-être trop m'adresser à lui en tant que père. Et même si je le fais, je viens devant lui avec vraiment crainte et tremblement. J'ose même pas lever la tête, j'ose prononcer juste quelques mots. Et ce que Jésus explique dans ce verset nous montre réellement comment Dieu il est. Et je suis convaincu que ce que nous voyons dans ces versets n'est pas une découverte pour vous. Ça ne l'est pas pour moi et pourtant c'est un très bon rappel, surtout en cette journée, dans ces quelques jours où nous mettons particulièrement l'accent sur les pères, de nous rappeler que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de tout l'univers, il est notre Père, bien sûr, si nous le connaissons par la foi, si nous l'avons accepté par la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus nous explique dans ces versets concernant son Père, qui est le nôtre si nous sommes enfants de Dieu? Eh bien, au verset 7, c'est assez intéressant, Jésus ici va montrer que Dieu aime donner. Il est possible que par moment, nous ayons cette pensée que Dieu soit plutôt chiche, n'est-ce pas? Nous voyons la réussite d'autres personnes, nous voyons l'avancement des gens qui nous entourent, et nous sommes parfois confrontés à cette attitude que le psalmiste va exprimer dans le psaume 73, « Je vois la réussite du méchant ». Et je me dis, c'est plus la peine que je fasse le bien, parce que ça ne me sert à rien. Eux, ils font le mal, ils réussissent. Moi, je fais le bien, et je suis freiné, j'ai des difficultés. Alors, à quoi bon, donc, de faire la justice, être attaché à la vérité? Ça ne vaut pas la peine. Et c'est une mauvaise réflexion, bien sûr. Et à cause des différentes circonstances dans notre vie, nous pouvons avoir cette impression que Dieu, il est tellement généreux avec les autres, n'est-ce pas? Et tout simplement, si Dieu il était un peu plus généreux avec moi comme il est avec les autres, ça irait mieux. C'est une tentation de penser dans ce sens et Jésus, il va confronter cela dans ce verset. Jésus va dire, Dieu, il donne lorsque nous demandons. Verset 7, demandez. Et l'on vous donnera. Bien sûr, là, il parle en termes humains, mais nous savons que ce principe, il s'applique à Dieu. Dieu, il écoute. Vous qui êtes parents, votre enfant vient vous poser une question, en général, vous allez l'écouter. Sauf si c'est la énième fois qu'il pose la même question, et là, vous dites, oh, j'en ai marre. Mais Dieu, il n'aura jamais cette réaction, vous le savez. Dieu ne dira jamais à vous demandez de trop. Dieu ne dira jamais vous demandez quelque chose qui est trop complexe. Dieu ne dira jamais « Ah non, je suis tellement occupé avec autre chose, prends un ticket, fais la queue. » Non, jamais. Il est Dieu. Et Jésus dit « Lorsqu'on demande, lorsque on cherche, lorsqu'on frappe, on obtiendra une réponse. » Et Jacques, dans son épître, va mettre le doigt sur le problème lorsque, par moment, nous ne voyons pas de réponse. Il va dire, c'est parce que vous ne demandez pas. Pas toujours, alors attention, si nous n'obtenons pas une réponse, ce n'est pas simplement parce qu'on n'a pas demandé. Ou qu'on n'a pas demandé avec assez de foi. Mais il est possible que parfois nous n'avons pas de réponse tout simplement parce que nous ne demandons pas. Nous ne nous adressons pas à ce Père dans les cieux qui est rempli d'amour, qui est bon, qui est fidèle et qui est tout à fait prêt à nous accorder sa bénédiction. Dieu n'est pas chiche. Dieu ne garde pas tout pour lui en nous donnant quelques miettes avec l'intention de nous garder juste à la limite de la nécessité pour qu'on s'appuie vraiment sur lui. Non, Dieu, il est bon. Dieu, il est généreux. Et Jésus va faire le contraste avec les pères terrestres dans ce passage, vous le savez. Les pères, en général, veulent le bien de leurs enfants. Vous qui êtes papa aujourd'hui, en général, vous voulez à la fois le bien, la réussite, plein de bonnes choses pour vos enfants. Et Dieu, il est pareil et il veut encore de meilleures choses pour nous. Et au verset 9, Jésus va faire un contraste. Il va aller, et comprenez bien ce que je dis, il va aller presque dans l'absurde pour faire réfléchir, pour interpeller. Lequel de vous, verset 9, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Personne. C'est la réponse attendue. Mais personne. Papa, je veux du pain. Ah tiens, fiston, un caillou. Non mais, qui fera ça? Personne. Verset 10. Si on demande un poisson, on va donner un serpent. Le papa va dire, tous les deux sont bons à manger. Hein. Poisson, serpent. Pareil, le serpent, ça a le goût du poulet. Il paraît, j'en ai jamais mangé. Mais entre un poisson, un serpent, bien que je n'aime pas trop le poisson, je vais choisir le poisson, croyez-moi. Et ici, lorsque un fils vient avec une requête tout à fait légitime, le père va dire oui. Ce qui fait que nous, lorsque nous avons une requête légitime que nous adressons à Dieu, est-ce que Dieu va répondre? Mais bien sûr que oui. Dieu va répondre. Et c'est ce que Jésus relève au verset 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, alors en comparaison à Dieu, Dieu il est parfait. J'en veux pour preuve Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait. Et donc en comparaison à Dieu, nous pouvons dire que nous sommes méchants avec même toutes nos bonnes œuvres. Alors il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est pris pour acquis. Les parents veulent le bien de leurs enfants. À combien plus forte raison? Bien plus, au-delà de cela. Pas de photo, pas de comparaison possible. À combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? De nouveau, cette idée de demander à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va mettre un peu l'accent là-dessus quand il va dire ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui viennent à Dieu, doivent croire qu'il existe. Si nous allons prier Dieu, si nous allons demander des choses à Dieu, comme Jésus dit dans ce passage, demander, chercher, frapper, demander à Dieu, si nous allons faire cela, il faut croire qu'il existe. Et je suis convaincu que si je posais la question à chacun ici ce matin, est-ce que Dieu existe? La réponse unanime sera oui. Je suis convaincu que personne ici dira « Ah non, Dieu n'existe pas » ou « Peut-être il existe, mais on ne sait pas trop ». Non, je suis convaincu que ici, tout le monde croit que Dieu existe. Et si ce n'est pas votre cas, venez me voir après le culte et on en discutera. Hein? Mais nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu est bon. Encore une fois, dans l'absolu, si je pose la question « Dieu est-il bon ?» Parce que vous connaissez votre Bible, parce que vous savez la bonne réponse, vous allez dire « Oui, Dieu est bon ». Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que nous, et je m'inclus là-dedans, pourquoi est-ce que nous agissons par moments comme si Dieu n'existe pas et comme si Dieu n'est pas bon? pourquoi est-ce que nous sommes si réticents à élever notre voix dans la prière vers Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes si prêts, si promptes à nous emporter, à nous décourager, à être bouleversés par les événements qui viennent dans la vie? Si Dieu existe, si Dieu est ce bon Père céleste qu'il est, je n'ai pas de raison de douter. Je n'ai pas de raison d'être déstabilisé. Je n'ai pas de raison d'être découragé. Lorsque je tombe dans ces travers, lorsque je ne prie pas, ou je prie peu, lorsque je ne demande pas à Dieu de l'aide, lorsque je suis découragé, lorsque je suis déstabilisé devant des circonstances inattendues de la vie, cela manifeste un manque de confiance en Dieu. Et cela manifeste un décalage entre ce que moi je sais, ce que je crois, et ce que je vis. Or, Jésus, dans ce passage, nous montre que Dieu veut notre bien. Comme Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, pour son peuple d'Israël, j'ai préparé des projets de paix, non pas des projets de malheur. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas qu'on se traîne. Dieu veut que nous soyons dans la louange. Dieu veut notre réussite. Dieu veut des projets et Dieu prépare des projets de paix, de bénédiction pour nous. Et à cela, on peut dire, mais Robert, je ne le vois pas. Je regarde autour de moi et puis ce n'est pas la réalité de ce que je vois. Hein, peut-être bien. Il y a des exemples comme celui de Job, droit, juste devant Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, vous le savez, il perd tout. Mais à la fin, quel est son témoignage? Dieu a donné, Dieu a ôté. Et là, je me fâche et je veux reprendre tout ce que moi j'ai perdu. Non, non. Béni soit le nom de l'Éternel. Je ne suis pas sûr qu'à la place de Job, j'aurais eu les mêmes paroles. J'aimerais croire que je l'aurais eu, mais ce n'est pas dit que je l'aurais dit. Joseph, vendu par ses frères en Égypte, accusé injustement d'un péché qu'il n'a pas commis, laissé en prison pendant littéralement des années, oublié. Et lorsqu'il rencontre ses frères, il peut dire « Vous avez voulu le mal, Dieu l'a changé en bien. » Et des exemples, on pourrait en citer des dizaines dans la Bible. Il est vrai que des mauvaises circonstances, ce qui semble à nos yeux comme des mauvaises circonstances, arrivent. Des difficultés sont la réalité de la vie. Ne nous voilons pas la face là-dessus. Mais en même temps, revenons à cette vérité. Nous avons un bon Père céleste dans les cieux. Et ce Père céleste veille sur nous. Dieu est assez puissant pour avoir les yeux sur chacun de nous individuellement. Et pendant que Dieu s'occupe d'un tel ou tel, ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de moi. Ça, c'est notre raisonnement. Nous, nous faisons une chose à la fois. Certains arrivent à faire deux, peut-être trois choses. Mais nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Il n'y a jamais un instant où Dieu n'a pas les yeux sur vous. Dieu prend soin de nous. Dieu prépare chaque circonstance dans notre vie. Et si quelque chose arrive dans votre vie, c'est parce que Dieu l'a permis. Avec Dieu, pas de hasard. Avec Dieu, pas d'imprévu. Une voiture qui tombe en panne, oui, ça nous surprend. Mais ça ne surprend pas Dieu. Dieu le savait. À ce moment-là, on va dire, oui, il aurait pu l'éviter. Oui, c'est vrai. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il veut nous enseigner. Il veut nous rapprocher de lui. Et est-ce que nous sommes prêts à le laisser faire cela? Les enfants ne comprennent pas toujours ce que font les parents. Je me souviens, mes parents, parfois, ils faisaient des choix, prenaient des décisions et faisaient certaines choses. Et je ne comprenais pas. Avec le recul, aujourd'hui, ben oui, je comprends la plupart de ce que mes parents, ils ont fait. Mais sur le coup, les enfants, ils ne comprennent pas. Et souvent, il faut dire à cette réponse, mais pourquoi? Ben parce que je l'ai dit. Parce que les parents savent ce qu'il faut. Et combien plus Dieu, il va agir. Et parfois, nous ne comprenons pas. Mais est-ce que nous avons besoin de comprendre pour obéir? Non. Est-ce que c'est bien lorsque nous comprenons? Absolument. Mais est-ce que c'est nécessaire pour l'obéissance? Non. Et dans ce passage de Matthieu 7, Jésus est en train de montrer que Dieu veut notre bien. Dieu fait chaque chose dans notre vie pour notre bien. Qu'on le comprend ou pas. Et parce que ce grand Dieu veille sur nous, nous devons agir en conséquence. Nous devons également faire le bien autour de nous. Et c'est ce que Jésus développe au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, et bien sûr, on veut que les autres nous fassent du bien. À mon avis, il n'y a personne qui dit « Ouais, je veux que les autres m'insultent, qu'ils soient injustes avec moi. » Non, 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 non. On veut que les autres nous fassent du bien. Alors, Jésus dit « Faites-le de même pour eux. » Finalement, ça doit commencer avec moi. Que ce soit les papas qui ont cette responsabilité au sein de la famille de diriger, de protéger, de pourvoir, ils doivent le faire parce que cela vient de Dieu et parce que à travers cela, ils vont pouvoir apporter l'harmonie, la paix dans la famille. Dans les relations, ça commence avec moi. Les papas envers la femme, envers les enfants, la femme envers son mari, les enfants envers les parents, dans l'église. Entre nous, ça commence avec moi. Et ça commence avec cette perspective que j'appartiens à Dieu, que Dieu veut mon bien. Et si tel est le cas, peu importe les circonstances qui sont autour de moi, je m'engage à remercier Dieu et de continuer de travailler pour lui. Je comprends que Dieu est au centre de ma vie. On le dit souvent. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que notre vie réellement reflète cela? On dit que la Bible est importante, mais combien de fois l'ouvrez-vous dans la semaine? On dit que la prière est importante, mais combien sont là le mardi soir pour la prière? On dit que passer du temps ensemble entre frères et sœurs est bien, mais c'est quand la dernière fois que vous avez invité quelqu'un de l'église chez vous? Ou que vous êtes allé chez quelqu'un d'autre de l'église? On dit que Dieu contrôle toutes circonstances, mais lorsqu'un imprévu arrive dans notre vie, on est prompt à nous emporter, à tomber dans la colère, à être dans l'incompréhension, à nous en prendre aux gens qui sont autour de nous. On dit que Dieu contrôle toutes choses, mais un collègue de travail incompréhensible nous met sur les nerfs, va nous pousser à dire, à faire des choses qui vont entacher notre témoignage pour Dieu. On dit appartenir à Dieu, mais au sein des quatre murs de notre maison, notre témoignage est tout autre. Et devant toutes ces cohérences, toutes ces incohérences qui peuvent survenir dans notre vie, il y a cette note d'espoir où nous revenons au verset 7 et 8 de ce passage, puisque je reconnais des incohérences dans ma vie. Il y a des choses que je fais que peut-être je ne devrais pas. Il y a des choses que je devrais faire et peut-être je ne les fais pas. Je sais ce que Dieu attend de moi, je ne le fais pas toujours, et ce serait le témoignage de chacun de nous. Mais au verset 7 et 8, il y a cette espérance, demandez et l'on vous donnera. La victoire est possible. Aujourd'hui, les pères peuvent être les meilleurs pères possibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parfaits, loin de là. Et les enfants disent amen. Les pères aujourd'hui peuvent être des exemples, peuvent agir comme il faut, peuvent avoir la bonne attitude, peuvent bien instruire leurs enfants, peuvent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Toutes ces choses que la Bible nous dévoile. Les pères peuvent faire cela. C'est possible. Et les femmes, vous pouvez aimer vos maris comme Dieu le veut. Vous pouvez être soumises à votre mari comme Dieu le veut. Les enfants peuvent obéir. Cela est possible. Notre société va dire non, c'est pas possible. Mais la Bible dit oui, c'est possible. Alors nous le croyons. Mais comment est-ce que c'est possible ? Jésus dit, demandez, cherchez, frappez. Si nous passons peu de temps avec Dieu, ne soyons pas étonnés qu'il y ait peu de réussite dans notre vie. Si nous passons peu de temps dans la Bible, ne cherchons pas pourquoi nous ne faisons pas ce qu'il faut. Ou nous réagissons mal dans telle ou telle circonstance. Si nous n'allons pas auprès de Dieu pour trouver sagesse et intelligence, ne nous posons pas la question pourquoi cela nous manque. Dans la Bible, Dieu va nous dire que si on manque de sagesse, bah, qu'on demande à Dieu. Et il la donnera. Et ce verset 8, cette assurance, quiconque demande, reçoit. C'est pas peut-être, il se peut, si on est sincère, si on dit les bons mots, si on est dans le bon état d'esprit, si on est au bon endroit. Non, on demande, on reçoit. Est-ce que vous demandez à Dieu ? Ben, vous avez l'assurance que vous allez recevoir. Celui qui cherche, trouve. Vous cherchez la volonté de Dieu ? Vous cherchez une direction ? Pour la vie, vous cherchez que faire par la suite. Père, vous cherchez comment bien diriger votre famille. Vous cherchez exactement ce qu'il faut faire. Ben, on cherche auprès de Dieu. Et là, on va trouver. Et on ouvre à celui qui frappe. Nous parlons parfois des possibilités dans la vie comme des portes. Voilà, Dieu va ouvrir telle ou telle porte. Mais il faut aller vers lui. Il faut frapper, il faut avancer. Et puis, tout cela, dans le contexte de notre vie de tous les jours, ce n'est pas abstrait. Juste une bonne pensée, une bonne résolution qu'on prend le dimanche matin alors que nous sommes entre nous. Et puis, demain, ben, on retourne exactement comme on était. Non, 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 c'est une constance. On demande, mais continuellement. C'est l'idée de ce verset 7, de demander, donc continuellement. Chercher continuellement, frapper continuellement. Et en contrepartie, ben, Dieu va répondre continuellement. Parce qu'il est le grand Dieu. Il ne manquera jamais de ressources. Il ne sera jamais dépassé. Et vous pouvez imaginer la pire, la plus complexe situation dans votre vie. Peut-être que vous la vivez en ce moment. Dieu est là pour aider, pour répondre à n'importe quel besoin. Nous avons cette assurance parce que la Bible le dit. Maintenant, avec cette connaissance que nous avons, avec ces paroles qui sont sur la page de notre Bible, nous avons la possibilité de sortir de cet endroit. Et pour les pères, ben, d'être des modèles, d'être des exemples dans notre famille. Pour les mères, d'être des exemples dans cette société qui veut tout chambouler. Pour les enfants, d'être des exemples d'obéissance et de soumission aux parents. Qu'est-ce que ce serait radical? Pour notre Église, d'être un exemple, une lumière, un phare, comme on le dit par moments, dans notre communauté. Tout cela est possible. Pourquoi? Ben parce que notre bon Père dans les cieux veille sur nous. Il intervient. Mais il faut aller vers lui. Dieu est tout puissant, mais il s'attend à ce qu'on vienne vers lui demander son aide. Demander ce dont nous avons besoin. De chercher. Il faut un effort de notre part. Sommes-nous prêts à le faire? Ou sommes-nous satisfaits avec ce que nous avons fait jusque-là? Ça a marché tant bien que mal jusque-là, alors on se débrouille assez bien tout seul. Dieu donne un coup de main de temps en temps, mais sans plus. Dieu veut tellement autre chose pour nous. Et lorsque nous examinons notre vie aujourd'hui, qu'on soit papa ou pas, quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce que c'est simplement en parole, simplement le dimanche, quelques temps ici et là, quelques pics dans la semaine? Ou est-ce que c'est une relation constante de confiance en Dieu qui se voit tous les jours à travers notre vie. Le raisonnement de Jésus, c'est parce que nous avons ce grand Dieu, ça nous permet de bien agir auprès des autres. Est-ce que vous avez ce témoignage? Est-ce qu'en ce jour des fêtes des pères, de la fête des pères, est-ce que nous remercions Dieu d'être notre Père et est-ce que nous sommes prêts à demander son aide d'agir comme lui il veut aujourd'hui, demain, tout au long de cette semaine. Que ce soit dans notre pensée et que par la grâce de Dieu, il puisse nous fortifier pour cela. Demandons son aide dans la prière. Oui, notre grand Dieu, nous te remercions que tu as pourvu à tout. Tu nous révèles dans ta parole comment tu es. Tu ne nous laisses pas à nous-mêmes pour nous débattre avec notre propre force. Mais ta puissance par l'Esprit est à notre disposition si nous t'appartenons. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta puissance. Merci que tu es prêt à nous venir en aide, à pourvoir, à diriger, à protéger. Merci que tu le fais. Nous demandons ton aide pour vivre comme toi tu le veux. Nous sommes impuissants. Nous demandons ta puissance pour changer, pour agir autrement, pour agir comme tes enfants, dignes de toi. Que tu nous aides dans chaque aspect de notre vie. Qu'il soit évident que tu es à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous et ainsi que toute la gloire et tout l'honneur puissent te revenir parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom que nous prions. Amen.